Nous allons commencer. Bonsoir à tous. Et au préalable, en mémoire de M. Étienne Dufresne, qui était conseiller municipal sous une municipalité d'Urieux, je vais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence, parce qu'il est décédé il y a quelques jours. Je vous remercie. Alors, nous procédons à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance et je vous propose Elvire Théoki. Qui est contre, abstention. Je vous indique que j'ai reçu un certain nombre de procurations. Sylvette Gilles a donné procuration à Jean-Michel Marlot. Christine Winkelmann a donné procuration à Jean-Paul Lénaire. Antonio Muga m'a donné procuration. Francine Deneux a donné procuration à René Sauvera. Laurence Turchini a donné procuration à Chantal Bergel. Et Isabelle Latard n'a pas donné procuration parce que finalement, elle a pu être là. Et félicitations Isabelle, encore une fois, pour la naissance de ton petit-fils. J'ai eu un certain nombre de remerciements, notamment la famille de l'ancien maire de Rasto, Aimé Robert, donc, qui est décédé il y a quelque temps. Et donc sa famille nous remercie pour les marques de sympathie que nous leur avons témoignées. La famille aussi de Michel de Vérac nous a envoyé un message du même type. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? Oui, monsieur Boncorsini. Attendez, alors, s'il vous plaît, parlez dans le micro.
Ah, il marche, parfait. Non, juste parce que je vous avais demandé les documents, vous les avez fournis, je vous tenais à vous remercier, merci.
Alors, je mets aux voix le procès-verbal de la dernière séance, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, je dois vous faire état du retrait d'une délibération, c'est la délibération d'ailleurs qui est la numéro 4, maîtrise d'œuvre pour réhabilitation et l'aménagement de la maison Beck, attribution du marché d'appel d'offres, que nous sommes contraints de retirer pour un problème de formalisme, une petite faute dans la présentation, qui, par pure précaution, nous commande de plutôt retirer la délibération et de relancer le marché. Mais je passe aussi la parole à M. Valli pour plus amples explications.
Oui, voilà. Alors, c'est un problème de formalisme pur et simple. Donc, en fait, vous savez, quand on fait des marchés publics, on doit indiquer le seuil maximum que l'on estime ne pas devoir être atteint pour la prestation. En l'occurrence, là, nous avons omis d'indiquer le seuil maximum, ce qui fait qu'on passe dans un formalisme plus important qui n'était pas le cas du marché que nous avons lancé. C'est-à-dire que nous aurions dû être en appel d'offres et non pas en marché à procédure adaptée. Donc le fait de ne pas avoir renseigné le seuil maximum, notamment sur la plateforme de dématérialisation, n'a pas déclenché la publication au journal officiel de l'Union européenne, ce qui aurait dû être le cas, et la publication de formulaires de réponse au marché, de formulaires européens. Donc, c'est une question de pur formalisme. La représentante de l'État qui a siégé à la commission d'appel d'offres ne l'a pas soulevé. Il y a tout de même un risque que le contrôle de légalité nous demande de reprendre le marché. Dans ce cas-là, il ne le ferait que dans un mois et demi à deux mois, parce que c'est le délai en général du contrôle de légalité. J'ai conseillé au maire et au conseil municipal, et je conseille au conseil municipal d'accepter le retrait du marché et de relancer immédiatement un nouveau marché dans les mêmes termes, mais en indiquant ce seuil et en respectant le formalisme, on perdra moins de temps que d'attendre un éventuel retrait à la demande du préfet. Voilà. Et si le maire veut mettre un blâme au DGS, il peut le faire, mais à coup pas.
Oui, monsieur Moncorsini.
Oui, juste, c'est dommage parce que j'avais une question à poser sur ça, mais qui n'a rien à voir avec le formalisme. Alors, tout simplement, je voulais vous faire remarquer que nous n'avons pas été associés lors des... Enfin, moi, personnellement, lors de deux commissions, la commission des travaux et la commission culture et patrimoine, sur les objets de cette réhabilitation. On aurait bien aimé participer afin qu'on puisse également apporter aussi nos idées.
Ce que je peux vous dire, puisque j'étais là aussi, c'est que un membre de votre groupe était présent à la commission d'appel d'offres.
Mais c'est... La commission d'appel d'offres n'est pas la commission du patrimoine de la culture, ni celle des travaux.
Certes, mais le...
L'objet de la mission, excusez-moi, l'objet de la mission, pour l'instant on en est qu'aux prémices, on désigne le bureau d'études de l'architecte qui va proposer, qui va déjà faire un diagnostic, ensuite un avant-projet sommaire, et c'est à ce moment-là que nous présenterons les choses en commission des travaux.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve que c'est très bien, mais ne croyez pas que quand on fait quelque chose, il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on aimerait faire, et après l'architecte qui va être désigné va s'appuyer sur nos directives, sur ce qu'on aimerait faire, parce que pour l'instant, je ne connais que de ce projet deux choses qui me paraissent très intéressantes, à la bibliothèque et une salle de réception. Je pense que ça ne va pas se limiter à ça. Il y a quand même d'autres possibilités. Le bâtiment est grand. On peut peut-être faire des choses de plus. Il y a des associations qui peuvent y participer. Je ne sais pas. Mais moi, il me semblait intéressant qu'on ait une commission de réflexion, notamment avec la commission culture, qui est quand même culture et patrimoine. D'ailleurs, ce sujet, depuis la création de la commission, je ne suis réuni qu'une fois pour dire le président. J'aurais bien aimé. Bon, peut-être que mes idées ne sont pas intéressantes. Hein, c'est possible. On peut en passer.
Alors, pour vous prendre au mot, chers collègues, le fait est que dès que l'équipe qui va nous conseiller sur la destination, enfin sur l'organisation des locaux et ainsi de suite, sera désignée en bonne et due forme cette fois, effectivement, c'est là que va commencer véritablement le travail de, ben, d'élaboration. Parce que nous, c'est pareil, on a des grandes lignes, on sait ce qu'on veut en gros faire dans l'ensemble, d'une manière générale, de la Maison Bec, mais après, pour ce qui est tel local, telle destination, avec les contraintes techniques éventuelles ou pas, ça, nous, on n'est pas du métier, on n'est pas capable de le dire. C'est cette équipe qui va être désignée qui va nous conseiller en ce sens. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, tous les élus seront associés à la réflexion.
Excusez-moi, mais je me suis mal exprimé. Je voulais tout simplement vous dire que quand on a un bâtiment comme celui-ci, on a peut-être des idées de son utilisation, et c'est à partir de ces idées-là que la personne qui va avoir mené le dossier, c'est-à-dire l'architecte, va nous donner les contraintes. Mais au départ, il faudrait quand même qu'on sache un petit peu ce qu'on voulait en faire. Ça serait bien de savoir qu'on a... Là, il y a deux idées qui sont parties, c'est celle de la salle de réception. Effectivement, ce serait très bien que les réceptions se fassent dans ce bel immeuble. Ça serait tout à l'intérêt de la commune. La bibliothèque, qui prend de plus en plus d'importance, d'ailleurs, à ce sujet, je sais qu'il y a eu des réflexions qui ont été faites, et bravo et à la personne qui gère la bibliothèque. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient éventuellement ressortir. On ne va pas en parler là, mais peut-être d'autres idées et qui permettraient à l'architecte de voir la faisabilité ou la non-faisabilité de nos projets.
Ok, mais de toute façon, encore une fois, rien n'est arrêté à ce niveau-là et on a encore tout à fait le temps d'émettre chacun de notre côté nos idées, nos suggestions. C'est au contraire. Alors, nous passons donc à l'ordre du jour. Dossier numéro 1, budget principal 2024, décision modificative numéro 2, rapporteur Liliane Diaz.
Alors, conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2024 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2024-DELIB/019 du 11 avril 2024 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigle pour l'exercice 2024, vu les différentes réalisations effectuées en 2024 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 21 novembre 2024, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 2 du budget principal de la commune telle qu'annexée. Vous l'avez derrière, donc on va passer au 0,12 60 000 euros pour équilibrer, puisque bon, ben, y a régime indemnitaire, augmentation ancienneté, régime indemnitaire, il y a un petit remplacement non prévu aux ASH. Il y a eu la rémunération des trois tours d'élection qui n'ont pas toujours, on a toujours pas reçu de compensation. Et cette année, il y a les 135 000 euros d'assurance du personnel qui sont obligatoirement imputés donc à ce compte également. Donc évidemment, ça fait un déséquilibre. Donc on a pris sur des lignes recettes dont les fonctionnements, on a reçu, on a touché davantage que ce qui était prévu pour équilibrer.
Pouvez-vous préciser dans ces recettes ce que vous avez augmenté ?
Alors il y a deux lignes qui ont été retenu pour donc abonder dans ces 60 000 euros qu'on ajoute au chapitre 12. Donc la ligne autres produits divers de gestion courante qu'on avait budgété au budget primitif de 40 000 euros et nous avons actuellement 99 457 euros. Là, ce sont des remboursements de sinistres par des assurances, soit des sinistres, surtout des sinistres qui ont été causés par des tiers et donc le remboursement de leurs assurances est venu créditer cette ligne. Et puis un contentieux d'urbanisme qui date d'il y a quelques années, sur lequel depuis l'année dernière on touche des pénalités de retard puisque la personne ne s'était pas exécutée, donc ils viennent créditer cette ligne. Et pour compléter, pour arriver aux 60 000, parce que là on avait mis 49 000 je crois, on a également puisé sur la ligne concession dans les cimetières où on avait prévu 4 000 euros au budget primitif et nous avons 6 606 euros.
Merci.
Je peux mettre aux voix, alors qui est contre, qui s'abstient, Vincent Pocamaré, adopté à la majorité. Dossier numéro 2, admission non valeur des créances irrécouvrables, rapporteur Liliane Diaz.
Le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine a transmis un état de produits communaux à présenter en non-valeur au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune. Il est rappelé qu'il appartient au comptable public de procéder, sous contrôle de l'État, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Le montant total des titres à admettre en non-valeur détaillé ci-après s'élève à 577,10 €. Un nom du redevable, Barjavel Michael, 150 euros pour des frais d'enlèvement de stationnement véhicule gênant. Muratori Eric, 150 euros, frais d'enlèvement stationnement véhicule gênant. Cliba SARL, 0,10 euros, protocole accord litige charpente école FM. Frédéric Mistral, pardon. Hébert Jennifer, deux fois, 83,20 € et 46,80 €, ce sont des rejets de prélèvement de restauration scolaire. Galas Christelle, 37,70 €, également un rejet de prélèvement de restauration scolaire. Doudou Ahmed, 49,30 €, pareil, rejet prélèvement de restauration scolaire. Et Jalon Le Lièvre, 60 € de droit de place vente glace. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 62-15-87 du 29 décembre 62 portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret 98-12-39 du 29 décembre 92 indiquant que toutes les opérations visant à recouvrer les créances ont été diligentées par le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine dans les délais légaux, vu le décret 98-13-70 du 29 décembre 92 indiquant que lorsqu'elles sont irrécouvrables, les créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recette. Vu l'état des produits irrécouvrables dressés par le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l'objet d'un recouvrement en raison des motifs évoqués par le service de gestion comptable, il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour la somme globale de 577,10 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal à l'article budget 6541, chapitre 65.
Merci. Bon, y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 3. Autorisation confiée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2024, rapporteur Liliane Diaz.
Monsieur le maire expose que l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi numéro 2012-15-10 du 29 décembre 2012, article 37, dispose que... Est-ce que vous voulez que je vous lise tout le paragraphe ? Il est proposé au conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement d'un montant de 269 800 euros avant le vote du budget primitif de 2025. Ces dépenses n'excédant pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2024, qui étaient de 2 536 588,40 euros, hors chapitre 16 afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximum de 509 895 euros. Le conseil municipal est donc amené à approuver l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget qui devra intervenir au plus tard le 15 avril 2025. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 21 novembre 2024, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 269 800 euros jusqu'à l'adoption du budget primitif 2025. Il est bien précisé que ce montant n'excède pas 25% des crédits ouverts sur les dépenses réelles d'investissement de l'exercice 2024, qui était de 2 536 588,40 euros, hors chapitre 16 afférent au remboursement de la dette, soit un montant maximum de 509 895 euros. Je pense que vous avez pris connaissance de toutes ces ouvertures de crédit et comment elles sont réparties.
Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, abstention du groupe Ensemble pour Camaré, adopté à la majorité. Voici numéro 5. Approbation du projet éducatif de territoire 2025-2028. Le projet éducatif territorial, le PEDT, mentionné à l'article L551-1 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève d'une démarche partenariale entre les services de l'État et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. Le PEDT est un outil de collaboration locale qui rassemble, à l'initiative de la mairie de Camaré, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, ainsi que les associations et les représentants des parents d'élèves. Son objectif est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative du jeune et de l'enfant de 3 à 17 ans. Il vise à élaborer une offre nouvelle d'activités périscolaires et extrascolaires permettant une meilleure mise en cohérence de l'offre existante dans l'intérêt de l'enfant. Le PEDT porte sur une période de 3 années, 2025-2028, pour donner à chacun le temps de se l'approprier, de le faire vivre et d'en mesurer les impacts. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, vu le Code de l'éducation et notamment les articles L551-1 et R551-13, vu le décret du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, vu le décret du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs, vu la délibération en date du 18 septembre 2014 relative au PEDT, vu la délibération date du 18 novembre 2020 relative à l'approbation de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement du contrat enfance-jeunesse, vu le principe de conventionnement avec la Caisse nationale d'allocations familiales couvrant l'ensemble de notre territoire, considérant que la commune de Camaret s'investit résolument depuis plusieurs années dans des politiques éducatives contribuant à la réussite des jeunes camarétois, considérant la nécessité de faire évoluer le projet de territoire, considérant que ces objectifs tiennent compte des dispositions prises dans le cadre de la réforme du temps scolaire en 2014 dans le cadre du PEDT qui sont conformes à la politique d'enfants-jeunesse menée par les municipalités. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet éducatif de territoire tel que présenté, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document utile et afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, approbation des modifications de règlement intérieur du centre de loisirs, la gare aux enfants. Le centre de loisirs sans hébergement, la gare aux enfants, accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans. Sa capacité, agréée par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, est de 112 enfants. L'accueil et l'encadrement des enfants sont assurés par les animateurs du service enfants, jeunesse et éducation de la ville de Camaret, l'équipe pouvant être complétée par du personnel occasionnel en fonction des périodes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 216/2016, délib 063 relative au projet éducatif du service enfants jeunesse, vu la délibération numéro 2024 délib 036 du 26 juin 2024 relative à la modification du règlement intérieur, sachant qu'à compter du 1er janvier 2025, un nouveau portail famille en ligne va être mis en place, considérant que dans l'intérêt des usagers et du respect des règles d'hygiène et de sécurité et du projet éducatif municipal, il convient d'apporter quelques précisions réglementaires nécessaires au bon fonctionnement du service. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur du centre de loisirs La Gare aux Enfants, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document utile et afférent à ce dossier. Alors donc vous avez le règlement intérieur avec surligné en jaune là où il y a des modifications. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, très bien. Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Approbation des modifications du règlement intérieur de la restauration municipale. Le service de restauration municipale est un service public qui a pour objectif principal d'assurer la confection et la délivrance des repas en service traditionnel. Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale et distribués par liaison chaude dans chacune des écoles. Le service de restauration municipale assure la confection des repas en privilégiant l'équilibre, la diversité des menus ainsi que l'hygiène, la qualité et la fraîcheur des produits servant à leur confection. Afin de mieux répondre aux besoins des familles et d'améliorer la qualité du service tout en diminuant la charge de travail, il est mis en place un système d'inscription à l'année ou au mois ou à la semaine. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 10 mars 2011 relative au règlement du service de restauration scolaire, vu la délibération du 13 décembre 2022 relative au règlement du service de restauration scolaire, sachant qu'à compter du 1er janvier 2025, un nouveau portail famille en ligne va être mis en place, considérant que dans l'intérêt des usagers et du respect des règles d'hygiène et de sécurité du projet éducatif municipal, il convient d'apporter quelques précisions au règlement intérieur nécessaires au bon fonctionnement du service, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur du service de restauration scolaire, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document utile et afférent à ce dossier. Donc pareil, vous avez en surligné en jaune les modifications. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, mise à jour du tableau de classement des voix communales, rapporteur Hervé Auriac.
L'article L'article L141-3 du Code de la voirie routière fixe la compétence du conseil municipal pour le classement et le déclassement des voies communales. Suite à la mission de diagnostic confiée au cabinet Bétard, portant sur la mise à jour du tableau de classement des voies communales approuvée lors de la délibération du 11 octobre 63 et complétée lors de la délibération du 8 décembre 98, puis du 27 juin 2005 par le conseil municipal. Vu l'ordonnance numéro 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, vu la loi 89-413 du 22 juin 89 relative au code de la voirie routière, vu le code de la voirie routière, notamment l'article L141-3, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2131-2, il est demandé au conseil de délimiter l'agglomération sur la voie dite chemin d'Avignon au droit de la parcelle F68B et de l'intersection avec le chemin de Ratavou afin d'améliorer la sécurité sur cette voie et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Donc, pour être plus clair, il s'agit de, suite à de nombreuses demandes, et puis de toute façon, les faits sont là, pour améliorer la sécurité, un petit peu de tous sur le chemin d'Avignon, il faut que sur le plan administratif, nous repoussions, nous déplacions la limite de l'agglomération, parce que quand on n'est pas dans une agglomération, on ne peut pas implanter des dispositifs qui visent à faire ralentir les automobilistes. En gros, c'est ça le truc. Donc, voilà, on va repousser jusqu'à la propriété Garcia. Et en face, on va mettre le nouveau panneau d'entrée de délibération, ce qui fait qu'on va pouvoir implanter des dispositifs sur le chemin d'Avignon, enfin, vous connaissez tous le coin, qui est effectivement extrêmement dangereux. Les gens croient que c'est un moyen d'aller encore plus vite. Donc, c'est un peu la ligne droite des Hinaudières sur certaines portions. C'est un chemin, c'est pas fait pour ça. Et donc, il y a beaucoup de passages de véhicules. Et voilà, on essaie de trouver un moyen d'améliorer la sécurité, notamment des riverains, des piétons et des cyclistes, des deux roues. Oui, monsieur Mancorsini. On va venir à votre secours.
Pour ne pas dire autre chose. C'est un sabotage.
Oui, sûrement.
Merci, monsieur. Oui, je suis très content que vous ayez pris ce problème à bras le corps, puisque vous avez déjà posé la question, puisque nous aussi on avait été interpellés là-dessus. Ma première question, c'est est-ce que déjà ce chemin n'était pas en agglomération, donc est-ce que ce chemin n'est pas déjà à 50 km/h ?
Si.
Bon. Alors, ma question est la suivante. Quels devront être les dispositifs que vous allez prendre à partir du moment où vous aurez reculé le panneau ?
Alors, l'option qui a été choisie, c'est d'implanter deux dispositifs de chicane à deux endroits différents du chemin d'Avignon, sur cette portion-là, des chicanes qui vont permettre malgré tout le passage des engins agricoles, puisque comme vous le savez, c'est un secteur extrêmement agricole. Les chicanes.
Bon, deux chicanes sur la longueur. Voilà. Bon. Permettez-moi d'avoir un petit doute sur les chicanes. On a vu ce que ça avait donné au bord de l'Ouvèze. Au bord de l'Aigle, pardon. Ma question, c'est comptez-vous quand même faire des réflexions sur ce chemin qui est de plus en plus dégradé?
C'est prévu aussi. C'est prévu.
C'est tout, merci.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Ensuite, communauté de communes Aigouvèze en Provence, approbation du rapport d'activité 2023. Alors, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes doit adresser avant le 30 septembre un rapport annuel d'activité au maire de chaque commune membre. Ce dernier doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Ce rapport relate les actions menées au cours de l'année 2023 par la communauté de communes dans ses différents champs d'application, dans les champs de compétences obligatoires, optionnelles et facultatives.
qui sont aménagement de l'espace, développement économique, tourisme et agriculture, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, construction, aménagement, exploitation et entretien des déchetteries intercommunales, politique du logement et des cadres de vie, protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, création et gestion des maisons de services publics, maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale, contrôle de la distribution et de la qualité de l'électricité publique, mission en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, développement, gestion et coordination d'un système d'information géographique SIG à l'échelle intercommunale et d'un système de gestion des cadastres, gestion du service commun d'instruction des autorisations des droits des sols, mutualisation de la politique de la commande publique dans le cadre du schéma de mutualisation, adhésion à la mission locale du Haut-Vaucluse. C'est également un élément clé d'information sur le fonctionnement interne de la communauté de communes, administration, finances, budget, fiscalité, personnel intercommunal. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport d'activité pour l'année 2023. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets au voile le fait de prendre acte. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Communauté de communes de Gouvèze-en-Provence, approbation de la convention du service juridique mutualisé. Par délibération du 23 avril 2014, le Conseil communautaire de la communauté de communes a approuvé la modification de ses statuts pour y inclure la création de services communs. Il est présenté aux membres du Conseil municipal une convention qui a pour objet de définir et de préciser les modalités de mise en place d'un service juridique commun entre la CCOP et la commune de Camaret, annexe numéro 6A, la fiche d'impact sur la situation du personnel, annexe 6B. La commune sollicitera à sa convenance le service commun dans les domaines suivants: assistance juridique en droit administratif, droit des collectivités territoriales, droit de la fonction publique, assistance juridique dans la passation et l'exécution des marchés publics. Selon les demandes exprimées par la commune, le service commun pourra également organiser des formations internes thématiques, créer et diffuser des guides internes thématiques, diffuser périodiquement une veille juridique. La gestion du contentieux est exclue du domaine d'intervention du service commun. La CCOP met à la disposition des communes souhaitant adhérer à ce service un chef de service attaché territorial, une juriste en droit public, adjoint administratif, le lieu de travail et le siège de la CCOP. L'autorité compétente pour la gestion de la carrière de ces agents reste la CCOP. Aucun agent de la commune de Camaret n'est mis à disposition ni transféré au sein du service commun. Selon une périodicité déterminée par les parties, il serait établi de manière contradictoire un relevé du nombre d'heures effectuées par les agents du service commun au profit de la commune. Le coût horaire forfaitaire sera de 20 euros. Ce montant sera révisé annuellement en tenant compte de l'évolution statutaire et de la rémunération des agents du service commun. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-4-2 relatif aux services communs non liés à une compétence transférée, vu les statuts de la CCOP, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Camaret et la communauté de communes de Gouvèze-en-Provence, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Vous avez la convention qui est jointe. Ce service ne sera pas de trop pour aider nos agents à se dépatouiller dans l'application des quelques 400 000 normes qui s'appliquent à une mairie. Lois, règlements, décrets, directives européennes, circulaires ministérielles et ainsi de suite. Il y en a 400 000. Voilà. Alors, y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, c'est le dossier numéro 11. Indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière municipale et les gardes champêtres.
Je vais peut-être vous passer tous les visas, déjà. Ah oui, c'est Jean-Luc, là. Alors, je passe la parole à Jean-Luc Dacoste.
Allez, le garde-champ.
Je faisais le canard.
Ouais. On va passer tous les visas parce qu'il y en a pas mal. Donc, vu l'avis donné par le comité social territorial en sa séance du 15 novembre 2024, conformément à l'article L74-13 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique durant... différent du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel RISAP attribué aux filières de la fonction publique territoriale. Suite à la refonte du régime indemnitaire de la filière police municipale instaurée par le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, une nouvelle indemnité est créée. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, applicable pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emploi, des directeurs de police municipale, des chefs de service de police municipale, des agents de police municipale et des gardes champêtres. Cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement est constituée d'une part fixe et d'une part variable tenant compte de l'engagement professionnel et de la matière de servir appréciée selon les critères définis par l'organe délibérant. Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de définir le cadre général de l'instauration de ce nouveau régime indemnitaire dans les conditions et les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur après avis des membres du comité social territorial. Bénéficiaire. À compter du 1er janvier 2025, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement comprenant deux parts est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres d'emploi suivants. Cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, cadre d'emploi des agents de police municipale, cadre d'emploi des gardes champêtres. Modalités et conditions d'attribution de la part fixe. L'ISFE est constitué d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe de l'ISFE est déterminée en appliquant un montant du traitement soumis à la retenue pour pension, un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite du taux prévu par le décret. Cadre d'emploi, chef de service de police municipale, part fixe 25%, entre parenthèses, maximum 32%. Agent de police municipale, 20%, maximum 30%. Garde champêtre, 15%, maximum 30%. La part fixe est versée mensuellement. Le montant de la part fixe évolue en fonction du traitement soumis et retenu des agents concernés. Les modalités et conditions d'attribution de la part variable. L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'ISFE dans la limite des montants prévus par le décret. Cadre d'emploi, chef de service municipal, maximum 7 000 €. Agent de police municipale, maximum 5 000 €. Garde champêtre, maximum 5 000 €. La part variable de l'ISFE tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des agents appréciés selon les critères suivants. Résultat professionnel obtenu par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise, ou éventuellement à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Le montant de la part variable sera versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par l'organe délibérant et pourra être complété par un versement annuel au mois de décembre sans que la somme des versements ne dépasse ce même plafond. Le montant de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est non reconductible de manière automatique d'une année sur l'autre. Il a vocation d'être réajusté après chaque entretien professionnel. Le versement attribué en décembre le sera selon les conditions suivantes. Absence de toute sanction disciplinaire au cours de l'année évaluée lors de l'entretien professionnel. Le montant annuel sera calculé selon les points obtenus lors de l'évaluation professionnelle, selon les éléments de valorisation approuvés en CTP. Nombre de points pour évaluation générale, 27 et moins. Nombre de points évaluation avec encadrement, 42 et moins. Montant annuel par variable ISFE sans engagement, 0 €. Montant annuel par variable ISFE avec management, 0 €.
entre 28 et 29. 40. Alors le nombre de points pour évaluation entre 28 et 29, nombre de points pour évaluation générale avec encadrement 43 et 44, montant annuel variable SFE sans management 200 €, montant annuel par variable SFE avec management 300 €, nombre de points évaluation générale 30 à 35, nombre de points sur évaluation générale avec encadrement 45 à 50 points, montant annuel par variable SFE sans management 400 €, montant annuel par variable SFE avec management 500 €. Cumul. L'indemnité spéciale de fonction et engagement est exclusive de toute et autre prime, indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir à l'exception. Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002. Des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001. Dispositif de sauvegarde. Lors de la première application de l'ISFE, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé à titre individuel et au titre de la part variable. Au-delà du pourcentage de 50% et dans la limite du plafond fixé réglementairement. Tout changement dans la situation de l'agent devrait donc conduire à mettre un terme à cette dérogation. La dérogation ne permet donc pas de dépasser les plafonds prévus, mais simplement d'opérer une répartition différente entre part mensuelle et annuelle de la part variable. Modulation de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement du fait des absences. Congé lié aux responsabilités parentales. En application de l'article L714-6 du CGFP, le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales, congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé de paternité et congé d'accueil de l'enfant, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service. Congé pour raison de santé. Dans un souci d'équité et dans les mêmes conditions que celles fixées par délibération numéro 2017, Délib 089 en date du 7 décembre 2017 relative à la mise en place du RIPSEP, un agent ne peut prétendre au versement de son régime indemnitaire pendant sa période de congé pour indisponibilité physique ainsi qu'il suit. Le montant de la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ainsi que le montant de la part variable versée mensuellement seront diminués à raison de 1/30 pour jour d'absence au-delà du 5e jour de congé de maladie ordinaire décompté sur l'année civile, à l'exclusion des jours d'hospitalisation, des congés d'adoption, des congés de maternité ou paternité, des arrêts consécutifs aux accidents de travail ou de trajet et de maladies professionnelles. En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire IFSE par fixe et par variable sera suspendu. Clause de revalorisation possible si l'Assemblée délibérante vote les montants maxima fixés par les textes réglementaires. Le montant maxima plafond fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux prévus dans le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 seront revalorisés. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer à compter du 1er janvier 2025 une indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE pour la filière de la police municipale, des gardes champêtres, exclusive de toute prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. De préciser que l'ISFE est constitué d'une part fixe versée mensuellement et d'un montant variable versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par l'organe délibérant, complété par un versement annuel sans que la somme des versements ne dépasse ce même plafond. De préciser que la part variable de l'ISFE tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir au regard de l'entretien professionnel et apprécié selon des critères définis par la mise en place du RICEP
pour préserver la parité entre les agents, de préciser que l'ISFE n'est pas acquise de droit et peut être modulée, revue à la baisse ou alors selon les modalités définies ci-dessus, de dire que les dispositifs de sauvegarde est appliqués lors de la première mise en place de l'ISFE afin de maintenir un régime indemnitaire antérieur plus favorable aux agents, de prévoir les crédits nécessaires au budget primitif de la commune, chapitre 012. Donc, je vais passer la parole à Yann si vous avez des questions à lui poser parce que c'est assez complexe.
C'était pas très important. Je pense que la première indemnité, il faudrait te la donner à toi parce que c'est ce que tu veux de te taper.
Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que franchement, si quelqu'un qui a compris quelque chose, il me le dit parce que moi j'avais compris. Juste une question, bon, peut-être vous pouvez m'éclairer. Est-ce que la somme de 7 000, 5 000 et 5 000, c'est le montant total de l'indemnité pour l'ensemble, non ? C'est par agent ?
Par agent.
C'est des belles sommes. Parce que quand on revoit la distribution après, là, on ne retrouve pas les mêmes montants. Je me dis, quand je vois 300, 400, comment on fait le rapport entre les deux là ?
En fait, tout ça, ce sont des plafonds.
Oui, mais ça, d'accord. Mais ouais, je veux dire, par contre. Alors,
je vous résume rapidement le dispositif. C'est en fait enfin quand on a demandé aux collectivités territoriales, à la fonction publique territoriale, de mettre en place ce qu'on appelle le RIFSEP, le régime indemnitaire qui était mis en place pour tous les agents en 2017. Certaines catégories d'agents n'ont pas été soumis à ce régime indemnitaire, dont la police municipale, ce qui fait qu'il y avait deux types de régimes indemnitaires, ce qui est très facile à gérer. Là, enfin, on aligne la police municipale sur, grosso modo, le régime indemnitaire général des autres fonctionnaires. Donc ça, c'est très bien. Le fonctionnement n'est pas tout à fait le même, même si la philosophie est la même, il y a quelques nuances. Donc en fait, une première part fixe correspond à ce qu'on donne mensuellement.
Est-ce que c'est 25% du salaire ?
Non, c'est un pourcentage sur le traitement indiciaire, oui. Un pourcentage sur le traitement indiciaire. C'est-à-dire que vous avez dans la fonction publique le traitement indiciaire et le régime indemnitaire. Le traitement indiciaire, c'est pour résumer le salaire de base.
Oui.
Voilà. Donc cette part fixe, ça sera tant de pourcents, donc là 25, 20 ou 15, du traitement indiciaire. Là. Ensuite, la part variable, en gros, c'est ce que nous on appelle la prime de fin d'année.
Ouais. Là.
Il y a un dispositif de sauvegarde qui est prévu dans ce dispositif au cas où ces données-là ne permettent pas aux agents de retrouver leur régime indemnitaire actuel. C'est le cas. Donc ce régime dérogatoire nous permet d'aller puiser sur la part variable, la part de fin, la prime de fin d'année, pour résumer, pour abonder la part fixe mensuelle afin qu'ils retrouvent le niveau d'indemnité, de régime indemnitaire qu'ils ont actuellement. Voilà.
Fin d'année, il y a
Ça c'est sympa. Non, je veux te dire, mais c'est bien. Est-ce que vous avez compris, mais c'est pas grave. Non, c'est que la part indiciaire, c'est 25%, mais ça peut représenter quoi, par exemple, dans le salaire de police municipale ? Parce que moi, ce qui me paraît important, c'est que si la personne arrive à un maximum de 7 000, ça fait une belle prime en fin d'année, quand.
Jean-Michel, il est un maximum de 7 000. Oui. Non, mais tout ça, ce sont des plafonds. Ici, nous, ce qu'on adopte en prime de fin d'année, c'est ce qu'on met après. C'est le petit tableau que vous avez après. Entre 0 et 400 sans encadrement, entre 0 et 500 avec encadrement.
C'est pas ça. Allez.
que vous voyez afficher des sommes, vous voyez afficher des sommes importantes, et puis en réalité, on n'arrivera jamais à ces montants-là. C'est ça qui est assez. Oui, je sais bien, ce sont des plafonds, mais ça, si vous n'atteignez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Les plafonds.
En sachant que, par exemple, sur nous, le chiffre qui est important, c'est le 5000 euros de part variable. On puise pour moitié sur cette somme-là pour aligner nos agents sur le régime indemnitaire actuel.
Ok, merci.
Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, IHTS.
C'est le 12.
Je me suis juste trompé du numéro, mais c'est le bon dossier. Je vous remercie de suivre scrupuleusement, c'est bien. Alors, par contre, si vous n'avez pas d'inconvénient, vu la technicité et le caractère quelque peu rébarbatif d'une lecture intégrale, je vous propose de passer à la fin. Il est proposé au conseil municipal de fixer la majoration du temps de récupération des heures supplémentaires effectuées par les agents le dimanche, les jours fériés ou la nuit entre 22h et 7h à hauteur de 150%, de verser l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents pouvant y prétendre, à défaut de possibilité de récupération au titre des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, d'autoriser le dépassement du contingent mensuel obligatoire de 25 heures à titre exceptionnel lié au caractère d'urgence et de sécurité publique ainsi qu'aux consultations électorales, d'attribuer aux agents pouvant y prétendre le versement des IHTS de manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées, d'attribuer aux agents pouvant y prétendre le versement des heures dites complémentaires et à défaut de possibilité de récupération, de fixer l'effet des dispositions de cette délibération au 1er janvier 2025 après transmission de cette délibération au contrôle de légalité et de sa publication ou affichage. Donc voilà, là, tout un dispositif extrêmement complexe, tout ça pour dire que, notamment en cas de jour d'élection, de journée électorale, de tenue des bureaux de vote par des agents municipaux, certaines catégories n'étaient pas indemnisées de façon correcte, et là, ça permet de le faire. Est-ce que j'ai bien résumé, ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ?
Non, en fait, voilà, on acte simplement, parce qu'on avait plusieurs délibérations qui réglaient ces matières-là. On synthétise tout en une seule délibération, on rappelle la réglementation et on repart sur une seule et même délibération. Hein, je crois que je ne me trompe pas. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Alors je mets au voile, donc le 12 et le 13.
Ouais, ok.
Hein ? Comme ça, on va encore plus vite. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier 14. Modification du régime des astreintes. Alors, même topo, c'est même encore pire. Je vous propose d'aller à la fin. Il est proposé au conseil municipal de mettre en place un ou plusieurs régimes d'astreinte et d'intervention au sein de la collectivité, de fixer les modalités d'organisation ci-dessus indiquées et que je n'ai pas lu, de recourir aux astreintes pour les catégories d'emploi ci-dessus indiquées, d'inscrire les crédits nécessaires, d'autoriser le maire à fixer le montant individuel de l'indemnité aux agents bénéficiaires dans les conditions énoncées ci-dessus par le biais d'un certificat administratif, d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois au budget. Et je passe la parole pour un résumé à Monsieur Bali.
Merci. Bon, là, c'est pareil. On rassemble en une seule et même délibération les différents régimes d'astreinte des services qui sont concernés. On rappelle la réglementation. On acte le fait que pour les services techniques en cours d'année, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, on est passé d'une astreinte de décision à une astreinte d'exploitation, parce que par le passé, seuls des responsables et des encadrants des services techniques assuraient les astreintes. Maintenant, il y a des agents, donc on passe en astreinte d'exploitation et non plus de décision. On acte aussi que pour les services techniques, c'est une astreinte à la semaine. Autrefois, c'était uniquement, enfin, il y a quelques temps, c'était uniquement le week-end. Non, il n'y a rien de spécifique. Hein. On rappelle les taux. Simplement. C'est sur cette délibération qu'on va adapter. Oui. Suite à une question d'un représentant du personnel en comité social territorial concernant notamment pour les services techniques qui ont une astreinte à la semaine, le représentant du personnel a bien fait son travail puisqu'il a ressorti une question parlementaire qui demandait comment cela se passait-il quand un jour férié, qui est mieux rémunéré que les jours normaux, se trouvait au cœur de l'astreinte de la semaine. Donc il y a une formule adaptée, c'est-à-dire que on retire le jour normal et on ajoute le jour férié. Pour le samedi, c'est une autre procédure. On retire le samedi pour mettre le jour férié. Quand c'est un jour de semaine normale, on ajoute le jour férié sur l'indemnisation totale. Voilà. Donc ça, ce n'est pas dans la délibération là, parce que les dossiers étaient déjà préparés. Mais nous allons adapter la délibération pour intégrer ce dispositif-là pour les services techniques suite à la judicieuse remarque d'un représentant du personnel. Voilà.
Et
ça vaudra pour tous les agents.
Est-ce qu'il s'agit d'une règle générale qui s'applique dans toutes les municipalités ou c'est vous qui décidez ?
Non, c'est une réglementation générale.
D'accord, voilà. Okay, merci.
Simplement, ce dont je viens de parler là, c'est pas inscrit dans la loi, ça relève d'une réponse ministérielle à une question parlementaire. Et donc on peut considérer que dans la pratique, ça s'applique.
Ok.
Y a-t-il d'autres interventions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, dossier numéro 15. Modification du protocole relatif au temps de travail, insertion des libérations sur les IHTS et les astreintes. Bon, ça reprend ce qu'on vient de dire. Je vais vous passer les visas. Il est demandé au conseil municipal d'appliquer les mises à jour concernant les astreintes et les heures supplémentaires et supplémentaires sur le protocole du temps de travail sur la commune de Camaret, et ce à compter du 1er janvier 2025, de supprimer les horaires de travail du responsable du pôle maintenance bâtiment, de mettre à jour les bornes quotidiennes de travail des agents du service technique. Voilà, on ne fait qu'insérer dans le protocole du temps de travail ce que nous avons voté précédemment. Y a-t-il des questions néanmoins ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16. Protection sociale complémentaire. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse s'est employé à mettre en place un contrat groupe en matière de protection sociale complémentaire selon les échéances prévues par les textes. Dès lors, les collectivités territoriales ont la possibilité de bénéficier d'une convention de participation conclue par un centre de gestion. Il précise qu'à la suite d'une procédure de marché, le groupement Reliens s'est vu attribuer la convention de participation pour le risque prévoyance. Il convient à présent au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion à la convention de participation prévoyance et au contrat collectif proposé par le CDIG 84 dans le respect des dispositions du décret précité. Cette adhésion permettra aux agents de souscrire une couverture en prévoyance dans le cadre de ladite convention de participation en bénéficiant d'une participation de l'employeur à fixer et à acquitter mensuellement lors de la paye. Enfin, le Conseil doit également fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de son versement. La convention a fait l'objet d'un avis du Comité social territorial en date du 15 novembre 2024. Je vous passe les visas. Il y en a un petit peu trop. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation portée par le CDG 84 pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025, d'approuver la convention d'adhésion et de gestion avec le CDG 84 et d'autoriser le maire à la signer, de fixer le montant de la participation financière de la commune à 50% du montant de la cotisation par agent et par mois pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025, de verser cette participation financière à compter du 1er janvier 2025 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune en position d'activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, aux agents contractuels de droit public ou de droit privé en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité, qui adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du CDG 84. D'approuver le versement de la participation financière de la commune à 50% du montant de la cotisation par agent et par mois pour le risque de prévoyance à compter du 1er janvier 2025. D'autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l'adhésion à la convention de participation et à son exécution. De prendre acte de la délibération du conseil d'administration du CDG 84 du 17 septembre 2024 qui fixe une participation annuelle comme indiqué dans l'annexe. De dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. Et vous avez la convention en annexe. Y a-t-il des questions ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 17, rapport social unique 2023. L'article 5 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré l'obligation pour l'activité locale d'élaborer un rapport social unique, le RSU. Depuis le 1er janvier 2021, conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique, ce rapport doit être réalisé chaque année. Le RSU rassemble les données à partir desquelles sont établies les lignes directrices de gestion. Le RSU est établi autour de 10 thématiques, l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social, la discipline. La synthèse du RSU 2023, si jointe, est une photocopie du personnel de la ville de Camaret au 31 décembre 2023. Il apporte une vue d'ensemble des caractéristiques du personnel et permet de déceler les axes de progrès et les points forts de la collectivité. Le RSU 2023 a été présenté aux membres du comité social territorial le 15 novembre 2024. Et il est donc proposé au Conseil de prendre acte de la communication du rapport social unique pour l'année 2023. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bien, nous avons quasiment épuisé l'ordre du jour. Vous avez les questions diverses, état des déclarations d'intention d'aligner et l'état des décisions du maire. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Oui, Madame Virlouvé.
Oui, l'entretien des écoles primaires Mistral et Amandier, c'est pas, enfin, il y a déjà un contrat d'entretien. Ça correspond à des travaux supplémentaires qui ont été faits. Qu'est-ce que c'est cette somme ?
Ça correspond à deux choses. Ça correspond, en fait, le marché actuel se terminait fin août. Pour avoir le temps de refaire le marché, etc., on a demandé une prolongation de 6 mois de ce marché. Premier élément. Et deuxième élément, on a demandé un avenant au marché existant pour les prestations supplémentaires qui ont été demandées pour l'école Mistral suite aux problèmes qu'on avait eu sur les sols, etc. C'est-à-dire une demi-heure de plus par agent et l'intervention d'une machine plus adaptée pour aller le long des plaintes à l'école Mistral.
D'accord.
Et le marché qui se termine le 31 décembre, a fait l'objet d'un appel d'offres et il était attribué. Et c'est à nouveau la société Honnête qui était attributaire du marché. Voilà. Et donc, dans les conditions de l'avenant, c'est-à-dire avec les prestations supplémentaires pour l'école Mistral.
D'accord, très bien. Et deuxième question, les travaux à la Soleillade, qu'est-ce que ça concerne, ça ?
Soleillade. C'est le comme la municipalité l'a fait pour l'école Mistral et pour l'école des Amandiers. C'est dans la perspective de la réhabilitation thermique et énergétique de l'école. C'est la phase étude qui va donc le diagnostic a été fait, donc qui va établir des propositions, monter le dossier de consultation des entreprises, analyser les offres et ensuite suivre les travaux qui auront lieu courant de l'année 2025 et qui ont déjà fait l'objet de subventions qui ont été présentées au conseil municipal en courant d'année. Voilà.
D'accord, merci.
Y a-t-il d'autres questions diverses ? Parce que moi, j'en ai une qui concerne en fait les horaires du conseil municipal. À la demande d'un certain nombre d'entre nous, il est proposé d'avancer l'heure du conseil municipal à 18h. Et nous sollicitons l'avis du groupe d'opposition qui a l'air d'y consentir.
Voilà. J'ai rien contre.
Ce faisant, nous allons nous aligner sur les horaires des conseils communautaires, la CCOP. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite au pot de l'amitié.